Voilà, donc bonjour à tous et à toutes. On commence notre groupe RAI. Et aujourd'hui, le sujet, bien sûr, est un sujet un petit peu très philosophique. Si je ne me trompe pas, qu'ai-je fait pour changer le monde? On va, bien sûr, dans quelques instants expliquer pourquoi j'ai choisi ce sujet. Je pense que vous devinez, on est à la veille de la nouvelle année. Je vais d'abord faire une introduction. Je tiens juste à préciser, j'espère ne pas oublier de le repréciser encore avant la fin de notre intervention, c'est que on va devoir arrêter pendant pas mal de temps maintenant parce que bon, nous on rentre ici dans une longue période de fête avec beaucoup de lundis qui seront des lundis des dimanches pardon, qui seront des dimanches fériés ou la veille d'une fête, ce qui veut dire que de toute façon vous recevrez bien évidemment un message. Mais notre groupe RAI, avec beaucoup de regrets, mais c'est comme ça, on n'a pas le choix, notre groupe RAI reprendra le dimanche 11 octobre. Le dimanche 11 octobre, de toute façon, vous recevrez un message, puisque le dimanche 11 octobre, on sera totalement au lendemain des fêtes. Et donc, on va essayer malgré tout aujourd'hui de transmettre un message important. Et pourquoi en cette veille de Rosh Hashanah? D'abord, comme je l'ai souvent expliqué, vous devez savoir, bon, pour les Juifs c'est évident, mais vous devez aussi savoir, tous mes amis non-juifs, Bnei Adam, j'aime pas dire non-juifs, parce que le nom est négatif, je préfère dire Bnei Adam, que en vérité, la fête de Rosh Hashanah, je sais que ça peut paraître difficile parce que pour le monde entier, le nouvel an, c'est le 1er janvier. Mais en vérité, c'est faux. Le nouvel an, tel qu'il est décrit dans la Torah, concerne tous les Bnei Adam. Parce que, comme vous le savez, selon notre tradition, c'est Adam qui a été créé le jour de Rosh Hashanah. Comme je l'ai souvent expliqué dans mes derniers cours, Rosh Hashanah, qui veut dire en français le nouvel an, n'est pas le premier jour de la création, mais le sixième jour de la création, le jour où est créé Adam, pour bien nous faire comprendre que le but ultime de toute la création, c'est l'homme. Mais Adam contient pas seulement Israël. Dans son âme, Adam contenait tous les Bnei Adam, c'est-à-dire les 70 peuples et Israël. Adam et Chava, bien sûr, Adam et Ève. Donc, je vous le dis avec la plus grande authenticité et la plus grande sincérité, tous ceux, et je pense que c'est votre cas, qui vous vous ressentez véritablement Bnei Adam, des descendants de Adam, sachez, comme je ne cesse de l'expliquer, que Rosh Hashanah vous concerne, vous aussi, autant que le peuple juif, autant qu'Israël. Peut-être pas au niveau du rituel, ça c'est un sujet en soi. Mais au niveau de la prise de conscience qu'une nouvelle année commence, que de nouvelles décisions doivent être prises, qu'un compte rendu de tout ce qui a été fait, une méditation sur tout ce qui a été fait pendant l'année qui précède, tout ça concerne tous les Bnei Adam. Cette année, Rosh Hashanah va tomber samedi qui vient et dimanche, et parce que Rosh Hashanah est toujours 2 jours. Donc samedi et dimanche, et je conseille véritablement à tous mes amis et tous mes élèves Bnei Adam, entre parenthèses non juifs, de vous ressentir, de sentir et de ressentir véritablement que vous êtes concernés par ce jour. Et donc vous pouvez en profiter si vous avez la possibilité pour faire un repas de famille. Et peut-être que ce soit 2 jours pour vous plus spirituels que d'habitude, avec peut-être la possibilité de prier, d'étudier, de parler de choses importantes et fondamentales avec vos amis, avec votre famille. Donc ça, c'est un message important que je voulais vous transmettre. Et maintenant, je reviens donc sur le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour changer le monde? Bien évidemment, pourquoi ce sujet? Parce que c'est la réflexion profonde que chacun d'entre nous doit se poser. La question profonde que chacun doit se poser en cette fin d'année. Qu'est-ce que j'ai fait cette année? Et cette question, je devais me la poser aussi l'an dernier. Donc, en vérité, c'est une question qui concerne. Pardon? C'est une question qui concerne. Mes amis, éteignez votre micro. C'est une question qui concerne ma vie en général, et une question qui doit revenir à la veille de chaque nouvelle année. Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que véritablement j'ai apporté ma pierre, ma contribution à l'amélioration du monde ou de ma famille ou de ma communauté, chacun à son niveau, comme j'ai souvent expliqué, et prenez-le de la manière la plus authentique possible. On ne nous demande pas d'être ni le Mashiach, ni d'être Moshe, ni d'être David, ni d'être dans d'autres domaines des gens qui ont véritablement fait avancer les choses. On n'a pas tous ce niveau. Mais malgré tout, si on existe, c'est que forcément le maître du monde attend quelque chose de nous. Même si un arrive à avancer de plusieurs mètres, et un autre de 1 mètre, et un autre de 50 cm, et d'autres quelques centimètres, et voire même quelques millimètres, si j'ai été créé, et si ma mission c'est de faire avancer les choses de quelques millimètres, je dois le faire aussi. Maintenant, encore une fois, le problème n'est pas, et malheureusement très souvent quand on est prisonnier de son ego ou de son orgueil, on se dit ou bien je fais des grandes choses ou je fais rien. Et ça c'est une vision qui est complètement erronée, qui vient d'ailleurs du mauvais penchant, des forces négatives qui sont en nous, qui flattent notre ego, qui flattent notre orgueil et qui nous disent ou tu deviens un héros ou bien bon c'est pas la peine de commencer à bouger, qu'est-ce que le monde en a à faire des quelques millimètres que tu vas apporter. C'est faux. C'est faux, c'est faux. Parce que moi, dans cette vie, j'apporte quelques millimètres. Mais comme vous le savez, notre tradition parle, et je pense que n'importe qui a un minimum de bon sens comprend que l'âme ne vient pas qu'une fois dans ce monde. L'âme revient des dizaines de fois dans ce monde. Aujourd'hui, dans le corps que je connais, demain, dans un autre corps, etc. Et donc, même si dans cette tranche de vie, je n'ai avancé que de quelques millimètres, peut-être dans une autre vie, j'ai avancé de plusieurs mètres. Dans une autre vie, peut-être de plusieurs kilomètres. Et peut-être que je suis dans ce monde aujourd'hui pour avancer. Il me manquait encore quelques millimètres pour terminer ma mission. Et je les ai réalisés. Alors évidemment, et si je fais le bilan de ma vie et je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai fait en 70 ans, 80 ans j'ai aidé une personne qui était en détresse à retrouver la confiance en elle et à devenir quelqu'un d'extraordinaire. J'ai parlé avec un couple qui était sur le bord du divorce et qui allait se séparer avec 3 ou 4 enfants au milieu. Je suis arrivé à sauver ce couple et finalement ils ont repris plus fort que jamais. C'est aujourd'hui une famille exemplaire. Oui, mais c'est la seule chose que j'ai fait pendant 80 années, donc j'ai pas de quoi être fier. Non, non, non. Oui, tu as de quoi être content. Oui, tu as de quoi être heureux. Parce que peut-être que tu n'es revenu dans ce monde, dans cette vie-là, que pour réaliser cette petite chose qui manquait à toutes les réalisations passées. Évidemment que si notre âme ne descendait qu'une seule fois dans ce monde, et sur 100 ans de vie, j'ai sauvé une famille, bon, c'est très bien, mais qu'est-ce que j'ai fait pendant les milliers d'autres jours et les centaines de milliers d'autres heures? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais si je comprends qu'en vérité que chaque vie n'est que le complément d'une vie antérieure, et que c'est la même âme, donc moi-même au niveau de mon essence, qui continue à avancer, peut-être qu'aujourd'hui je ne suis venu que pour réaliser des petites choses qui manquaient à toutes les réalisations passées. Maintenant, encore une fois, je ne dis pas qu'il faut se contenter de faire une chose dans sa vie et c'est fini, mais il ne faut pas se regarder et voir les choses d'une manière négative. Parce que, quoi qu'il en soit, nous ne connaissons pas l'ensemble de nos vies, nous ne savons absolument pas quel est le projet que le maître du monde nous a imposé, et donc c'est seulement quand on aura la grande image, après la délivrance, quand on verra toutes nos vies, chacun d'entre nous va voir toutes les vies qu'il a vécues et toutes les réalisations qu'il a faites, seulement à ce moment-là, quand on aura la grande image, on pourra faire un bilan sincère et se dire « oui, j'ai fait des grandes choses ». Parce que il y a 100 ans j'ai fait ça, il y a 300 ans j'ai fait ça, il y a 400 ans j'ai fait ça, il y a 100 ans j'ai fait ça, il y a 50 ans j'ai fait ça, il y a 20 ans j'ai fait ça, etc., etc. Donc, on doit attendre la grande image. Maintenant, je voudrais revenir. C'est toujours une forme d'introduction ce que je dis. Encore une fois, je conclue en disant que ne laissons pas le mauvais penchant flatter notre orgueil et nous désespérer de faire quoi que ce soit en se disant « si je ne fais pas de grandes choses, alors ça ne sert à rien toutes les petites choses que je peux faire », c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Encore une fois, je sais que je me répète, même une chose minuscule, attachée à tout ce que j'ai déjà réalisé dans d'autres vies, ça prend une tournure complètement différente. Le problème, c'est que moi, je ne sais pas ce que j'ai réalisé dans les autres vies et je ne me concentre uniquement sur les petites choses d'aujourd'hui. Je veux maintenant vous donner quelques exemples bibliques pour vous compreniez et qu'on comprenne ensemble, parce que chaque cours que je le donne aussi pour moi. Je me renforce en parlant pour comprendre plus profondément les choses. Et on va commencer par Abraham. Regardez, Abraham, jusqu'à l'âge de 75 ans, la Torah n'en parle pas. Je parle de la Torah écrite. On a des commentaires oraux, mais au niveau de la Torah écrite, jusqu'à l'âge de 75 ans, la Torah n'en parle pas. À 75 ans, Hachem s'adresse à lui, il lui dit « Lech lecha, va vers toi ou va vers la terre, je t'indiquerai, je ferai de toi, je te bénirai, toutes les nations seront bénies par toi », regardez les versets, « toutes les familles de la terre seront bénies par toi, je sortirai de toi un grand peuple et tu seras une bénédiction pour tous les peuples ». Bon, c'est des promesses quand même extraordinaires. Je vous pose une question simple, mes amis. Abraham a-t-il vu, ne serait-ce que le commencement du commencement de toutes ces promesses dans sa vie? Abraham a vécu jusqu'à l'âge de 175 ans. 175 ans. Qu'est-ce qu'il a vu comme réalisation dans sa vie? Eh bien, il a vu la naissance de Yitzhak, né, il est vrai, d'une manière miraculeuse, car lui avait déjà 100 ans, Sarah avait déjà 90 ans, et selon notre tradition, Sarah avait un grand problème, elle était née sans matrice. Elle n'avait pas dans son corps l'endroit pour enfanter. Donc il y a eu effectivement un miracle, même sans l'histoire de la matrice qu'elle n'avait pas, rien que l'âge prouve que c'était déjà un miracle, puisque jusqu'à ce moment-là, ils s'étaient sans doute unis des centaines de fois, et ils n'avaient pas été capables de mettre un enfant au monde jusqu'à ce que vienne la promesse d'Hachem qui leur promet un enfant et né Yitzhak. Très bien. Mais Abraham a vu que toutes les familles de la terre étaient bénies par lui. Abraham a été reconnu par toutes les familles de la terre au point de devenir la source de la bénédiction, comme l'indique la Torah. Abraham a vu sortir de lui un grand peuple. Non, il a vu un enfant qui est sorti de lui. Avec sa véritable épouse qui est Sarah. Il y a eu aussi Ishmael avec Agar, mais ça, c'est un autre sujet. Mais avec sa véritable épouse, il a mis au monde un enfant. Où est la grande nation? Où est le modèle de bénédiction pour toutes les nations? À l'époque d'Abraham, les nations prenaient Abraham pour modèle. Il avait sans doute quelques milliers d'élèves, mais certainement pas toutes les nations. Alors, où est la promesse d'Hachem? Je ne réponds pas encore. Cette promesse, Hachem la redonne à Yitzhak, plus ou moins dans les mêmes mots. Qu'est-ce que Yitzhak a vu dans sa vie? Ben, il a vu sortir de lui, d'accord, Yaakov, mais il a vu sortir de lui aussi Esav. Et il a même connu le petit-fils de Esav qui est Amalek. C'est-à-dire, il a vu de ses propres yeux toute une lignée qui sort de son sang, de lui et son épouse, qui va devenir Amalek, Esav, Amalek. Alors c'est vrai, il a fait sortir aussi Yaakov, mais bon, il n'a pas vu Yaakov grandir, il n'a pas vu Yaakov devenir un grand peuple. Au contraire, Yaakov va descendre en Égypte. Prenons le cas de Moshe. Moshe, il est vrai, a réalisé de grandes choses. Il a sorti le peuple d'Égypte, mais lui-même n'est pas rentré en Israël. Et malheureusement, dans la paracha qu'on vient de lire ce Shabbat, au Beth Knesset, à la synagogue, dans Parchat Vayelech, c'est donc l'avant-dernière paracha, vous pouvez le voir en français, à la fin de la paracha, Hachem dit clairement à Moshe que sache que le jour où tu mourras, pas peu de temps après, ton peuple, enfin mon peuple ou ton peuple, je ne rappelle pas quelle expression, peu importe, on parle d'Israël, commencera à nouveau à se détourner de moi et de la Torah. Ça veut dire que Moshe, avant même de quitter ce monde, entend le maître du monde lui dire « Sache que tout le travail que tu as réalisé, ne t'imagine pas que ça y est, c'est fini. Je te garantis que ce peuple-là commencera à se détourner de moi. » Et effectivement, on n'a qu'à lire après la Bible, les juges, les prophètes, etc., les rois, et jusqu'à la destruction du premier temple, et deux destructions de temple, quatre exils, et désolé de vous dire que la Torah, c'est sûr que c'est un modèle, mais dans le peuple juif, on est loin tous d'être un modèle aujourd'hui. Il y a des tas de gens corrompus chez nous aussi, comme partout ailleurs. Donc, ça veut dire quoi? Le roi David, qui toute sa vie s'est battu pour protéger son peuple, pour dévoiler Hachem, il n'a eu que des problèmes. Deux de ses fils, un fils a voulu le tuer. Un autre fils, alors qu'il savait, Adoniaou, que c'était Salomon qui avait été choisi pour être l'héritier, quand son père était mourant, s'est proclamé roi. Bon, ça a échoué, mais il s'est proclamé roi. Yoav, son général d'armée, a soutenu l'un de ses pires ennemis, Achitophel. Combien d'ennemis il avait, extérieur, intérieur? Comme vous le savez, il est mort à l'âge de 70 ans, glacé. Glacé, il mourait de froid à l'intérieur, son sang s'était refroidi tellement il avait traversé de souffrances dans sa vie. Qu'est-ce qu'il a vu? Même le temple qu'il voulait construire, il ne l'a pas vu, c'est son fils qui le construira. Qu'est-ce que je veux vous faire comprendre par là, mes amis? Je vais vous faire comprendre par là la chose suivante. C'est que, reprenons le cas d'Abraham. Est-ce que Hachem lui a menti? Hachem lui promet d'être une bénédiction pour toutes les nations et de lui sortir un grand peuple, et il n'a rien vu de tout ça? On comprend de là quelque chose de très fort, et je prie le maître du monde qu'il me donne les mots juste pour vous le faire comprendre. En vérité, la construction de ce monde est une véritable association entre le maître du monde et nous. Et je dirais même que la majorité du travail, c'est le maître du monde qui va le faire. Attention, j'ai dit majorité, j'ai pas dit tout le travail. J'ai déjà expliqué des milliers de fois dans mes cours la différence entre la Torah et une religion. C'est que dans la religion, on attend tout de Dieu. Dans la Torah, il y a une association entre Dieu et nous. Et la part de travail que je dois faire, Dieu ne le fera jamais pour moi, même si je prie toute la journée. Mais dans cette association, c'est sûr que la part d'Hachem est forcément plus grande que la nôtre. Et deuxième remarque, c'est qu'en vérité, le monde ne peut pas être changé en une génération, en deux générations. Ça prend toute l'histoire, ça prend des millénaires. Mais chacun d'entre nous apporte une pierre à cet édifice qui un jour sera terminé, sera construit, et rétroactivement, tout le monde verra que finalement sa pierre a apporté quelque chose, parce que sans elle, on n'aurait pas pu avancer dans la construction. Donnons un exemple plus simple que donnent nos maîtres. Quand tu construis une échelle, et c'est sûr que celui qui met le premier échelon, c'est loin encore d'être toute l'échelle. On ne peut pas monter en haut du mur avec un seul échelon. Mais d'un autre côté, sans cet échelon, et sans le deuxième, et sans le troisième, et sans le quatrième, on n'arrive pas en haut de l'échelle. Donnons un autre exemple. On se marie, on met des enfants au monde. C'est évident que ce n'est pas forcément chaque enfant qu'on met au monde qui va devenir un modèle. Peut-être même pas les petits-enfants, peut-être même pas les arrière-petits-enfants. Mais va savoir si tôt ou tard, de cette lignée que j'ai mis au monde, ne sortira pas quelqu'un qui fera de grandes choses. Donnons un exemple simple. Le roi David. Comment le roi David est apparu? Ça commence avec un père qui couche avec ses filles, Lot avec ses filles. Ça passe par une femme, Ruth, qui était une Moabite. Comme vous le savez, les Moabites sont le peuple le plus repoussé dans la Torah. Et pourtant, Ruth va devenir la mère de David, donc la mère du Mashiach. Du côté des hommes, Yehuda, qui va avec sa belle-fille en pensant que c'était une prostituée. Donc, il y a quand même des choses graves qui se passent dans cette lignée-là. Même le roi David... je pense que la plupart d'entre vous ne le savez pas, je l'ai déjà expliqué dans mes cours, mais le roi David lui-même, comment qu'il est né le roi David? Vous savez que son père Yishai était un très très grand juste. Le problème, c'est que Yishai venait de la lignée de Ruth. Et il y avait une très 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 grande discussion, en hébreu une machloquette, ça veut dire, comment on dit en français une machloquette, une discussion, mais dans le sens une querelle, voilà. Il y avait une querelle à l'intérieur du peuple juif. Est-ce qu'une femme de Moab a le droit de se convertir? Tout le monde était d'accord que les hommes de Moab ne peuvent pas se convertir. Mais il y avait certains qui disaient l'interdiction est que sur les hommes, pas sur les femmes. Et d'autres disaient les femmes, oui, peuvent se convertir. En vérité, c'est eux qui avaient raison. Donc, Ruth s'est convertie parce qu'à son époque, elle s'est mariée avec Boaz. Boaz était l'un des représentants de la Torah de l'époque. Et Boaz, lui, tenait l'avis qui dit que oui, les femmes de Moab peuvent se convertir. Le problème, c'est qu'à l'époque de Yishai qui était le petit-fils de Ruth, le monde toraïque avait changé et était venu à la tête du monde toraïque ceux qui pensaient que même les femmes de Moab ne peuvent pas se convertir. Et donc Yishai avait déjà 7 enfants et il ne trouvait pas comment les marier. Bien que c'était un homme immense, mais les gens lui disaient, écoute, je suis désolé, non, tu n'es pas juif. Et il se retrouve avec 7 enfants à marier qu'il n'arrivait pas à marier. Il a appelé sa femme, il lui a dit, ma chérie, je ne veux pas qu'on divorce parce qu'on ne peut pas se séparer, mais on n'a plus de relation. Donc, c'était un homme qui avait des moyens. Il lui a fait construire une maison loin de lui, à Bethléem, mais loin de lui. Comme ça, on ne se voit pas et on n'est pas ensemble. On ne va pas mettre un 8e enfant au monde qu'on ne pourra pas marier. Le problème, c'est que, bon, elle a accepté, parce qu'elle, en tant que mère, elle souffrait aussi de voir ses enfants qui ne pouvaient pas se marier. Et donc, elle a accepté, elle est partie. Sans divorce, mais elle s'éloignait de son mari, jusqu'à ce que peut-être la situation change. Le problème, c'est que Yishai était un homme. Et un homme ne peut pas rester des années ou des mois sans femme. Et un jour, Yishai a eu une faiblesse. Et il y avait des serviteurs et des servantes qui travaillaient chez lui. C'est quoi ce bruit, mes amis? Il y avait une servante qui travaillait chez lui et il l'a appelée et il lui a donné rendez-vous pour le soir. Il avait besoin, c'est un homme, ne jouons pas la comédie. Comme je vous l'ai toujours dit, dans la Torah, il n'y a pas de bon Dieu. Le seul bon Dieu, c'est le vrai Dieu. On est tous des hommes. Et donc, il lui a donné rendez-vous. Elle ne pouvait pas imaginer rentrer dans la chambre de Yishai à la place de sa maîtresse, de maîtresse dans le sens de la femme de Yishai. Elle est partie chez la femme de Yishai, elle lui a dit, sache, voilà ce que ton mari m'a demandé, je ne peux pas te faire ça. C'était une femme extraordinaire. Et ben, la femme de Yishai s'est déguisée, elle est venue à la place de la servante. Comme vous le savez, dans notre tradition, l'union entre un homme et une femme au niveau de ceux qui sont très 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 spirituels se fait dans le noir absolu. Donc quand elle est rentrée, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien, il n'a pas vu que c'était sa femme. Ils se sont unis, elle est tombée enceinte de David. Ça veut dire que David lui-même est né d'une union où Yishai pensait aller avec sa servante. Après, il y a eu encore des histoires, mais ça, c'est un autre sujet. Qu'est-ce que je veux vous montrer par là? Ça veut dire que malgré toute la lignée qui a amené David, un père avec ses filles, un homme avec une prostituée, Ruth qui est de Moab, Yishai lui-même, le père de David, qui pense aller avec une servante. En vérité, grâce à Dieu, il va avec sa femme, et lui, il ne le sait pas. Et comme ça naît David. Qu'est-ce qu'on comprend, mes amis, de là? On comprend que le bien passe par un processus qui est lent, qui est lent, qui est lent, qui est lent. Mais d'un autre côté, je vais dire quelque chose d'horrible, mes amis. Mais si Lot n'avait pas été avec ses filles, si Yehuda n'avait pas été avec sa belle-fille qu'il voyait comme une prostituée, et si Yishai avait été capable de se retenir jusqu'à ce que la situation change, et qu'il n'aille pas avec sa servante, peut-être que David ne serait jamais né. Et donc peut-être que le Machiav ne serait jamais né. Qu'est-ce qu'on comprend de là, mes amis? J'ai pris précisément un cas extrême dans le sens du pas bien. Mais à plus forte raison. Il faut savoir que jusqu'à la délivrance finale, nous ne verrons pas et nous ne comprendrons pas ce que nous avons vraiment réalisé dans ce monde. C'est pour ça que nous devons avoir une émouna extraordinaire. La Emouna, traduction en français, j'aime pas la traduction parce qu'elle est très pas bonne, mais la foi. Bon, j'ai dit un gros mot, excusez-moi. La Emouna, je préfère dire la Emouna. La Emouna, ça veut dire une confiance. On doit avoir une confiance absolue dans le maître du monde que chacune de nos bonnes actions, même si nous ne voyons pas le résultat, même si le résultat de cette bonne action prendra peut-être des siècles pour aboutir à ce que cette bonne action a amené. Mais un jour, au moment de la délivrance, quand nous allons tous revenir, nous verrons que chaque pierre que nous avons apportée dans chacune de nos vies a permis la construction de la délivrance et de la maison extraordinaire dans laquelle toute l'humanité se retrouvera comme une famille. C'est pour ça d'ailleurs que quand Hachem dit à Abraham, tu seras une bénédiction pour toutes les familles de la terre et non pour tous les peuples de la terre. Parce que Hachem a fait allusion à Abraham de ce qui se passera au moment de la délivrance, où tous les peuples seront comme des familles. Vous imaginez aujourd'hui les Iraniens, l'Arabie Saoudite, les Syriens, les Israéliens, les Chinois, les Coréens, les Américains, tous la même famille. Vous imaginez ça aujourd'hui? C'est ça l'allusion dans le verset. Un jour, les peuples seront comme une famille, seront bénis par toi toutes les familles de la terre. Mais c'est sûr qu'Abraham n'a rien vu. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne le voit pas. Mais un jour, on le verra. Et c'est pour ça que la qualité essentielle dont nous avons besoin, et c'est ça la réponse à ma question du cours d'aujourd'hui, qu'avons-nous fait pour changer le monde? On a besoin de deux choses. J'agis, même si je ne vois rien, absolument rien, des résultats que j'attendais de mon action. Même si parfois je vois le contraire, j'ai aidé quelqu'un, même pas il me remercie, même pas il est reconnaissant. J'agis. Et la deuxième qualité, je dois avoir une émouna, une confiance absolue dans le maître du monde, qu'il ne néglige aucune pierre, aucun caillou apporté à la construction du monde. Et je dois savoir, comme Abraham l'avait compris, que peut-être, oui effectivement, le grand peuple qui est sorti d'Abraham, c'est 500 ans après, au moment de la sortie d'Égypte. 500 ans après. C'est-à-dire qu'Hachem promet quelque chose à Abraham dont la réalisation sera 500 ans après. Combien de temps avons été nous, Israël, en exil avant de revenir sur notre terre? 3000 ans depuis la destruction du premier temple, car comme j'ai souvent expliqué, à l'époque de Ezra, une minorité est revenue, la grande majorité est restée en Babylonie, en Perse et s'est éparpillée. Après la destruction du deuxième temple, ça fait déjà 2000 ans, plus 1000 ans, la destruction du premier temple. Enfin, en vérité, 2500, 2600 ans, pas tout à fait 3000 ans. 3000 ans, nos prophètes nous disent, vous reviendrez sur votre terre. Par quoi on est passé avant de revenir sur notre terre? Mais ça s'est, oui, réalisé, 3000 ans. 3000 ans. Il faut comprendre, mes amis, que le maître du monde a besoin de chacun d'entre nous. Mais chacun d'entre nous doit comprendre qu'il n'est qu'un millimètre dans cet océan d'hommes et de femmes qui, dans chaque génération, apportent leur pierre. Et il est absolument impossible de voir la construction aujourd'hui. Mais quand j'ai cette émouna, quand j'ai cette conviction, quand j'ai cette confiance que sans ma pierre, eh ben, il va manquer quelque chose de grave et il va falloir que je revienne autant de fois jusqu'à ce que j'apporte ma pierre. Parce qu'il y a deux raisons qui font que l'on revient sur terre. Soit parce que dans chaque génération où je reviens, j'apporte une nouvelle pierre. Soit parce que dans la génération dans laquelle je suis venu, je n'ai pas apporté ma pierre. Et c'est une autre raison pour laquelle je reviens jusqu'à ce que finalement, j'apporte la pierre pour laquelle j'ai été créé. C'est ça la véritable émouna. Savoir que le maître du monde est avec nous. Et qu'il apprécie chacune de nos pensées, chacune de nos paroles, chacune de nos actions. Il les prend, il les met de côté et il continue à construire la maison. Maintenant, pourquoi ça prend tellement de temps? Parce que le maître du monde veut associer toutes les générations et toute l'histoire à cette construction. Alors c'est sûr que l'homme orgueilleux, et malheureusement c'est la majorité, je ne parle pas de nous bien sûr, c'est sûr que l'homme orgueilleux se dit, ah ben si je ne suis pas reconnu dans ma génération comme étant un grand bienfaiteur, ça ne m'intéresse pas de faire. Mais ça, c'est de l'orgueil puant. Non, fais ton travail, même si personne ne sait ce que tu as fait, même si personne n'est au courant de ce que tu as fait, fais-le. Tu n'es pas dans ce monde pour que l'on parle de toi. Tu n'es pas dans ce monde pour avoir une image et un tableau de bienfaiteur, etc. Tu es dans ce monde pour faire. Et un jour viendra où tu te rendras compte que toutes tes actions, même si elles n'étaient connues que de très peu de monde, de ta femme, de tes enfants, de tes voisins, de tes amis, et pas plus, mais un jour viendra où tu seras véritablement celui qui sera montré du doigt par le maître du monde et qui dira, voilà, la délivrance a pu se faire grâce à lui, 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 et des milliers et des milliers dans chaque génération qui construisent la maison d'Hachem dans ce monde. C'est ça, en vérité, le bilan. Et donc, pour conclure, je dirais la chose suivante. La réflexion que nous devons avoir, mes amis, dans cette période, c'est faire le bilan de ce que nous avons fait de bien pour le monde sans rechercher le moindre intérêt, sans rechercher le moindre remerciement. Moi, je dois faire un point, c'est tout. Ça, c'est mon travail. Maintenant, en cette veille de nouvelle année, et après, je pense, ce message que je vous transmets, nous devons nous renforcer plus encore pour nous dire à partir de cette nouvelle année qui commence véritablement samedi et dimanche qui viennent, je prends sur moi de faire un maximum de choses, d'apporter un maximum d'aide, de soutien, de bien dans ce monde. C'est pour ça que j'ai été créé, c'est pour ça que j'existe. Et encore une fois, j'insiste, je ne recherche ni les remerciements, ni les applaudissements, ni les louanges, ça ne m'intéresse pas. Je dois faire du bien. Et un jour, ce bien, encore une fois, sera vu, dévoilé, compris par l'humanité tout entière. Parce que, encore une fois, si nous n'agissons pas concrètement, eh bien, on risque d'attendre encore des millions et des millions d'années jusqu'à ce que finalement la délivrance se fasse. Par contre, chacun d'entre nous qui agit, même dans la pudeur la plus grande, sans être vu, sans se montrer, sans rien dire, c'est celui-là qui est véritablement le soldat de la délivrance et qui amène la délivrance. Et c'est ça le message que nous devons comprendre et prendre sur nous aujourd'hui, à quelques jours de Rosh Hashanah. À partir de l'année prochaine, je prends sur moi d'être un guerrier. Je prends sur moi d'être un homme d'action, d'être une femme d'action, de faire des choses, même si elles sont petites. J'ai la émouna totale que même ces petites choses participent à la construction du monde. Même si je ne vois rien aujourd'hui, parce que Avraham non plus n'a rien vu, Yitzhak n'a rien vu, Yaakov n'a rien vu, Moshe n'a rien vu, David n'a rien vu. Aucun des grands dans chaque génération, que ce soit dans le peuple juif ou dans les autres peuples, aucun des grands n'ont rien véritablement vu de ce qu'ils ont fait. Donnons un exemple simple, je ne vais pas sur le plan politique car Obama, ce n'est pas ma tasse de thé sur le plan politique. Mais malgré tout, regardez tout ce que les Noirs ont souffert aux États-Unis pendant des siècles, jusqu'à ce qu'un jour on arrive à un président noir. Mais c'est à pleurer, même si je ne partage pas du tout ses convictions politiques qui sont à l'extrême opposé des miennes, surtout en tant qu'Israélien. Mais quoi qu'il en soit, je respecte cet homme. En tant qu'homme, je le respecte. Pourquoi ? Parce qu'il est l'aboutissement de siècles de travail désespéré où les générations ne voyaient aucun résultat jusqu'à Martin Luther King qui s'est fait assassiner et finalement est sorti un président des États-Unis qui n'était pas blanc. Mais qui aurait pu imaginer une chose pareille ? Qu'est-ce qu'on comprend de ce message ? Jamais, 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 jamais se désespérer. Même si tout me semble noir, quand Martin Luther King rassemblait les gens dans les rues et qu'un jour il a pris une balle dans la tête, tout le monde aurait pu se désespérer et se dire « mais on n'y arrivera pas, les blancs ne nous laisseront pas, c'est impossible ». Et quelques années après, Obama est président des États-Unis. Qu'est-ce qu'on comprend de ce message, que ce soit chez les juifs ou chez les non-juifs? Tout travail sincère finit par donner des résultats. Et Obama en est l'une des preuves les plus extraordinaires dans l'histoire du monde. Maintenant, je terminerai juste par une phrase. Vous savez que la descendance en hébreu se dit « zera ». En vérité, « zera » veut dire « semence ». Quand je sème des graines ou quand j'ai une descendance, même une descendance déjà grande, eh ben, ça s'appelle en hébreu « zera ». Ça veut dire « semence ». Ben, attends, un enfant de 30 ans, c'est pas une semence. Pourquoi la Torah l'appelle « semence » ? L'un des messages fabuleux avec lequel je conclue est finalement ce que j'ai expliqué. Parce que dans ce monde, nous sommes tous des planteurs de graines. Nous ne sommes pas ceux qui verront peut-être l'arbre pousser. Et on est encore moins ceux qui auront le mérite de récolter les fruits de l'arbre. Mais nous ne pouvons pas échapper à notre mission d'être des planteurs de graines. Et les graines finiront par pousser. L'arbre finira par exister. Les fruits finiront par être récoltés. Mais qui a planté la graine ? Moi. Même si c'est seulement dans 200 ans que les fruits pousseront de la graine que j'ai plantée, c'est quand même moi qui ai planté cette graine. Donc quand un jour on fera le bilan, on n'ira pas remercier celui qui a pris le fruit. On ira remercier celui qui a planté la graine et qui n'a vu aucun résultat visible de son travail. Mais il a planté la graine. Et sans la graine, il n'y aurait pas eu l'arbre, il n'y aurait pas eu les fruits. C'est ça notre mission. Nous sommes des planteurs de graines et il n'est jamais trop tard. Quel que soit l'âge qu'on a, il faut commencer. Même si on a 60 ans, 70 ans, 80, tant qu'on a encore des jours devant nous, des années devant nous, on doit se considérer comme quelqu'un qui commence sa vie maintenant, planter des graines qui un jour donneront un arbre somptueux avec des fruits fabuleux. Que le Maître du Monde nous aide en cette fin d'année à recevoir, on pourrait être capable de faire le vrai bilan et surtout samedi et dimanche prochain, Shabbat et dimanche prochain, dans cette nouvelle année qui commence, que le Maître du Monde mette en nous des forces extraordinaires qui vont nous permettre durant toute l'année d'être de véritables acteurs, d'être de véritables faiseurs, d'être de véritables guerriers et que l'on ne se lasse pas et qu'on ne se fatigue pas de faire et de faire et de faire. Et que chaque graine qui sera plantée sera un jour l'arbre de la délivrance avec l'aide du Maître du Monde. Voilà mes amis. Alors maintenant, j'ai hâte d'avoir vos questions. Je vous demande juste une faveur, mais je connais votre réponse d'avance. Comme c'est malgré tout, je pense, un message très important, est-ce que vous m'autorisez à le mettre pour le grand public aussi ce message ? Et pas seulement pour le groupe RAI ? Vous m'autorisez, c'est vous qui décidez. Très bien. Alors, je le mettrai aussi pour tout le monde, parce que c'est quand même un message, je pense, que j'espère des milliers pourront en profiter. Alors maintenant, j'attends avec impatience vos questions. Est-ce qu'il y en a ? Ou je vous ai saoulé peut-être ? Non ? Je ne vous ai pas saoulé ? Très bien. Alors.
Oui, j'ai une question.
Alors, attendez, qui c'est qui a une question ? Voilà. Marc, oui. Absolument, ouais, je le dis souvent, mais bon, il y en a peut-être qui ne savent pas comment le fermer. Ou... Ce que je propose, c'est que peut-être il y a des gens qui techniquement ne savent pas comment fermer leur micro, alors peut-être qu'ils demandent à un voisin ou à quelqu'un qui s'y connaît qui leur explique comment on ferme un micro. Voilà. Ah, je vous entends plus. Ah, c'est incroyable, je n'entends plus. Voilà, je vous entends, oui.
Voilà. La paracha de Bereshit, ce n'est pas la première, c'est pas la paracha de Rosh Hashanah. Pourquoi est-ce qu'elle est plusieurs semaines après ? Est-ce qu'il y a une raison pour ça ?
Alors, vous posez une question extraordinaire. Effectivement, nous recommençons la lecture de la Torah à la première paracha, le dernier jour de Soukhot. D'accord ? Bon, ce qu'on appelle Simchat Torah. Le dernier jour de Soukhot. Donc, finalement, le dernier jour de toutes les fêtes du mois de Tishrei. Parce que là, on rentre dans une période de fêtes, c'est pour ça qu'on n'aura plus de groupe Rai. On a Rosh Hashanah, après on a Yom Kippour, et puis après on a Soukhot, qui dure 8 jours. Donc, on passe d'une fête à l'autre jusqu'à pratiquement les 2/3 de ce mois. Et donc, pourquoi on recommence la Torah, justement, pas le jour de Rosh Hashanah, et seulement à la fin des fêtes. Alors, vous imaginez qu'une question comme celle-là nécessiterait des heures et des heures de réponse. Je vais essayer, pour avoir aussi d'autres questions, de répondre de la manière la plus simple, tout en essayant d'être la plus claire aussi. D'abord, comme vous le savez, le jour de Rosh Hashanah n'est pas le premier jour de la création, mais le jour de la création de l'homme. Très bien. Donc, malgré tout, ce n'est pas suffisant comme réponse, parce qu'on aurait pu très bien recommencer la lecture de la Torah au premier jour de l'année. Mais, comme j'ai souvent expliqué dans différents cours, les trois grandes fêtes de l'année, qu'on appelle Pessah, Pâques en français, jour de la sortie d'Égypte, Shavuot, jour du don de la Torah, Soukhot, la dernière fête du mois de Tishrei, puisqu'on a Rosh Hashanah, Kippour et Soukhot, Soukhot qui dure 8 jours, et on recommence la lecture de la Torah le dernier jour de Soukhot. Soukhot. Et comme on le sait, les trois fêtes correspondent aux trois pères. La fête de Pessah est sous le modèle d'Abraham, ça je ne peux pas expliquer pourquoi maintenant parce que ça serait trop long, mais la fête de Pessah correspond à Abraham, la fête de Shavuot, le don de la Torah, correspond à Yitzhak, et la fête de Soukhot correspond à Yaakov. Et là, vous allez comprendre, cher ami, pourquoi on recommence la lecture de la Torah seulement après Soukhot, qui correspond à Yaakov. Parce que comme je l'ai souvent expliqué dans mes cours, Yaakov est la sagesse de l'équilibre entre les contraires. La Sphira, l'attribut divin qu'on appelle dans le Zohar et la Kabbalah, Tiferet. Abraham représente la qualité de la bonté. Mais, comme j'ai souvent expliqué, on ne peut pas être que bon dans ce monde. Surtout les Français le savent mieux que dans n'importe quelle langue, puisque le C est à côté du B. Très bien. Donc, on ne peut pas être trop bon dans ce monde. Maintenant, Yitzhak représente la rigueur. On ne peut pas être que rigoureux dans ce monde. Il y a des fois où il faut être bon, il faut savoir avoir pitié, et il faut savoir céder et baisser la tête. On ne peut pas être que rigoureux. Donc, chacun représente une qualité qui est nécessaire, mais qui ne peut pas être la seule qualité. Yaakov a le bénéfice d'avoir eu la sagesse de savoir comment gérer ces deux qualités au bon moment, de la bonne manière et avec la bonne mesure. C'est pour ça que Yaakov, d'après notre tradition, représente l'homme authentique. Celui qui n'est pas prisonnier d'une qualité, d'une idéologie, d'une certaine vision partielle du monde, mais celui qui est capable de retrouver l'unité entre les contraires. Et c'est la raison pour laquelle nous recommençons la Torah uniquement après la fête de Soukhot, pour bien nous faire comprendre que la Torah a été donnée pour faire de nous des hommes équilibrés. C'est-à-dire des hommes qui sont capables de gérer les différences, de gérer les contraires. C'est ça le véritable but de la Torah. Malheureusement, on est loin d'y être arrivé, car même dans notre monde juif, il y a, comme on le sait, des mouvements, des courants, etc. Et beaucoup sont enfermés dans leur vision très restreinte du monde, que ce soit sur le plan politique ou même sur le plan religieux. Et il n'y a aucune honte à le dire. Israël a été choisi pour dévoiler la vraie Torah, mais ça fait des millénaires qu'on n'y arrive pas encore véritablement, d'où tout ce qui nous est arrivé, 2 destructions de temples et 4 exils. Mais quoi qu'il en soit, c'est la mission d'Israël de dévoiler la vraie Torah, qui est cet équilibre entre les peuples, entre Israël et les nations, entre les caractères, les idéologies, les fois et les convictions différentes, d'arriver à tout réunir et de transformer l'humanité tout entière comme une grande famille, où l'homme est différent de la femme, mais malgré tout ils vivent ensemble. Les enfants sont différents des parents, mais malgré tout ils vivent ensemble, quand bien sûr la famille est réussie. Et donc, c'est ça le but de la Torah. C'est pour ça, encore une fois, que on ne recommence la Torah que après la fête de Sukkot qui correspond à Yaakov, pour nous dire que si tu deviens un homme enfermé dans un système, sache que tu es très très loin de la vraie Torah, et finalement tu as transformé la Torah en religion, comme toutes les religions, où c'est ma religion et pas une autre. Et la Torah, la vraie, c'est tout le contraire. La Torah recherche l'unité dans le monde, l'unité entre les hommes, l'unité entre les peuples, l'unité entre les foies et les idéologies. Ça, c'est la vraie Torah. Malheureusement, il y a très peu de juifs qui sont connectés à la vraie Torah. Et celui qui arrivera plus que tout autre à être connecté complètement à la vraie Torah sera le Mashiach. Et c'est comme ça qu'il arrivera à unir le monde, à amener la paix dans le monde et à transformer l'humanité entière comme une grande famille où chacun a son rôle, chacun a ses responsabilités. Un homme n'est pas une femme n'est pas un homme. Les enfants ne sont pas les parents et les parents ne sont pas les enfants. Chacun a sa place, chacun a son rôle, mais c'est une seule et unique famille. Et ça, c'est le modèle de Yaakov. Voilà, cher ami. Y a-t-il une autre question ? Alors, qui c'est qui se jette à l'eau, là ? Avec une bouée, c'est pas grave, mais jetez-vous à l'eau.
Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais en poser une deuxième.
Très bien. Alors, effectivement, j'ai donné des exemples où c'est à travers le mal qu'est sorti le bien. Toute la lignée de David et toute la lignée messianique. Mais le problème est, c'est que si tu fais le... D'abord, du mal peut sortir du bien aussi, c'est vrai. Mais le problème, cher ami, c'est que le prix à payer est très 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 grave. Je vais donner un exemple très douloureux, très grave, qui va me causer des critiques et on va me lapider. Mais c'est pas grave. Ça fait 40 ans que je suis habitué à ce qu'on me lapide chaque fois que j'ouvre la bouche. Après la Shoah, 3 ans après seulement, on a mérité de voir le commencement de la réalisation des prophètes, des prophéties vieilles de 3000 ans. On commence à revenir sur notre terre. Malgré tout, le prix à payer était terrible. Auschwitz, Treblinka, comme je l'ai déjà annoncé dans mes cours, ça fait longtemps que Yad Vashem en Israël sait que ce n'est pas 6 millions de juifs qui sont morts pendant la Shoah, mais 9 millions. Mais Israël refuse de le faire savoir aux nations parce que déjà les 6 millions, c'est déjà beaucoup et on ne veut pas maintenant changer la tête des nations. Mais en vérité, tout le monde sait après 40 ans de recherche que c'est 9 millions de juifs qui ont été assassinés dans les camps de concentration et pas 6 millions. Mais ça a explosé en Allemagne. Pourquoi ça a explosé en Allemagne ? Je ne dis pas que c'est la seule raison, car nous ne sommes pas dans les secrets du maître du monde. Mais l'une des raisons claires est parce que c'est en Allemagne qu'il y avait la plus grande assimilation de juifs. C'est en Allemagne que les juifs, les premiers, avaient lâché pratiquement toute la Torah. C'est en Allemagne qu'est né le mouvement qu'on appelle les Maskilim, je ne sais pas comment on dirait en français, qui se sont battus de toutes leurs forces pour casser la Torah d'Israël et qui, d'une certaine manière, je parle de juifs bien sûr, de juifs complètement assimilés, qui parlaient au gouvernement russe, polonais, ukrainien pour se battre contre les juifs religieux. Et des choses très graves se sont passées en Allemagne. Pourquoi ? Ça a été le premier pays d'Europe qui a accepté l'ouverture et l'assimilation des Juifs. Les Juifs, voyant qu'on leur ouvre la porte après des siècles de confinement dans des ghettos, eh ben une extrême en amène une autre, ils se sont assimilés à 80%, 90% en Allemagne. Mais c'est pas seulement qu'ils se sont assimilés, c'est qu'ils sont devenus même anti-Juifs. antisémite, presque, dans le sens anti-Torah. La grande majorité des Juifs allemands au début du 19e siècle. Comme je le disais récemment dans un cours, j'ai fait un séminaire l'année dernière à Lille et je logeais chez des amis qui vivaient à côté de Lille. Et un jour, ils m'ont fait visiter les cimetières de la guerre 14-18 qui sont autour de Lille. Et si un jour vous les voyez, vous verrez, il y a un cimetière allemand avec des milliers de tombes, car des milliers d'Allemands sont tombés dans cette région. Les plus grandes guerres de 14-18 étaient d'Afka dans le nord. Et j'ai vu quelque chose d'absolument bouleversant. On voit une croix, un Magen David, une croix, un Magen David. Ça veut dire qu'il y avait des centaines de soldats juifs qui se sont battus aux côtés des Allemands contre les Français, contre les Anglais, etc. Et on sait que dans notre tradition, un juif qui est enterré ne peut pas se faire enterrer à côté de quelqu'un qui a une croix on le met dans une terre séparée où il n'y a que des Magen David. Magen David, ça veut dire l'étoile de David. Et là, on voit une croix, un Magen David. Une croix, vous pourrez aller voir, vous verrez. Et ça montre à quel point, même si, bon, ils n'ont pas renié le fait qu'ils étaient juifs, mais ils étaient tellement assimilés, les juifs allemands, que finalement, ils ont accepté d'être enterrés à côté de quelqu'un qui était d'une autre religion. Ce qui n'est pas le cas dans notre tradition, si on la respecte. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Comme par hasard, 30 ans, 50 ans après, vous savez qu'il y a une image extraordinaire, essayez dans Google de la retrouver, où on voit un jeune Allemand arriver dans un ghetto juif, je ne sais pas si c'est en Pologne ou en Russie, et on voit une mère juive avec un enfant, apparemment ils sont affamés tous les deux, et le jeune soldat sort un morceau de pain de sa trousse ou un morceau de gâteau et le donne avec un grand sourire pendant la guerre 14-18. À l'enfant juif et à sa maman. Et après, il y a une autre photo où ce jeune soldat revient en tant qu'officier SS dans le même ghetto juif et on le voit pointer son pistolet sur la tête d'un enfant juif et tirer dessus. Ça veut dire qu'en 20 ans, celui qui a donné du pain à un enfant juif tire dans la tête d'un enfant juif. Il était soldat, il est devenu officier SS. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Juifs se sont battus à côté des Allemands pendant la guerre 14-18. Les Allemands aidaient les Juifs pendant la guerre 14-18. Et 20 ans après, Auschwitz, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est le terrible prix à payer de décennies d'assimilation, de rejet de la Torah, de lutte contre la Torah, avec les fameux Maskilim, qui étaient tout un groupe de Juifs assimilés qui se battaient pour détruire la Torah. Et voilà quel a été le prix. Le prix à payer, c'est que la Shoah est sortie du pays où les Juifs s'étaient le plus battus contre leur peuple. Et ça, peu en parlent, parce que peu ont le courage de le dire, mais c'est la vérité vraie. Je ne dis pas que c'est la seule raison, mais c'est la vérité vraie. Et donc, c'est pour ça que je dis que même du mal peut sortir le bien. En 1945, on ouvre les portes de Auschwitz. En 1948, on danse dans les rues de Tel Aviv pour fêter la renaissance d'Israël sur sa terre. En 3 ans seulement. Mais d'un autre côté, le prix à payer, c'est 9 millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui sont restés en Europe et qui ont été gazés et transformés en cendres. Je prends un exemple extrême, cher ami. Mais de cet exemple-là, vous comprenez pour chacun d'entre nous. Oui, même du mal peut sortir du bien. Mais le prix à payer est tellement, tellement dur que mieux vaut passer tout de suite par le bien. Comme ça, on n'aura pas ce prix à payer. Comprenez? Et donnons un autre exemple, je termine. C'est sûr que Lot qui couche avec ses filles sortira malgré tout de lui David. Mais le prix à payer est très grave, entre autres, que Ruth vient d'un peuple qui est complètement maudit par Dieu et par le Ham Israël, par le peuple juif. Ça veut dire que c'est la seule personne qui s'est convertie de Moab et qui était acceptée, qui est devenue la mère du Mashiach. Mais d'un autre côté, sur tout un peuple qui est rejeté, une seule va avoir le courage de traverser ce qu'elle va traverser et finalement de donner naissance au roi David. Ça veut dire que finalement, le fait que Lot a couché avec ses filles, ça a quand même eu un prix très très grave, que tout un peuple est rejeté par la Torah. Donc, même s'il sort le Mashiach de cette union, malgré tout, le prix à payer est terrible. Ce qui veut dire, encore une fois, c'est un autre exemple, et je pourrais en rapporter des dizaines d'autres, que même du bien, même du mal peut sortir le bien, mais attention, le prix à payer sera terrible. Hachem ne fait pas de cadeaux. C'est pour ça que moi je ne l'appelle jamais le bon Dieu, parce qu'il est tout sauf bon. Ça veut dire qu'il est bon peut-être à son niveau, mais arrêtons de l'appeler le bon Dieu. Parce que le bon Dieu, tel qu'on le dit en français, c'est tellement nul, tellement stupide, tellement... C'est tellement, tellement nul. Sa bonté, elle est au-dessus de notre compréhension, on ne la comprend pas. Bien sûr qu'il est bon, mais quand nous on dit bon Dieu, on parle comme un petit français, ou dans n'importe quelle langue, et on s'imagine que c'est le bon Dieu, dans le sens, je l'ai dans ma poche. Oui, je l'ai dans ma poche, oui. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe partout dans le monde et qui peut dire qu'on peut l'appeler le bon Dieu. Contentons-nous de l'appeler Dieu. C'est déjà suffisant. Voilà. Alors mes amis, il y a quelques questions écrites. Je vais essayer de bénir. Adam Arishon a vu que David Ameller ne devrait pas vivre. Il lui a donné 70 ans de sa vie. Oui. Par exemple, et c'est une très très bonne illustration de ce que je dis, d'après notre tradition, Adam aurait dû vivre jusqu'à l'âge de 1000 ans. Il a vécu jusqu'à l'âge de 930 ans. Bon, d'après les codes de la Torah, je ne rentre pas dans les détails. Où sont passés les 70? Il a vu que David devrait naître, mais que David n'arriverait pas à vivre dans ce monde parce que toutes les forces contraires empêchaient la naissance du roi David et il lui a donné 70 ans de sa vie. Ce qui veut dire que Adam a fait une action dont le résultat ne sera que des millénaires plus tard, et même pas en vérité David, le Mashiach qui sortira de David. Ce qui veut dire que Adam a fait une action dont le résultat ne se verra qu'au moment de la délivrance, donc des millénaires après. C'est un très très bon exemple pour prouver que je ne dois pas chercher à avoir le résultat tout de suite. Je dois faire et je fais confiance au maître du monde que lui saura quoi faire de ma graine. Jomidino, que pensez-vous d'un rabbin de confiance que récemment a dit que Théodore Herzl a perdu son Olam Haba? Il s'est référé à lui comme Herzl Yimarchemo. Bon, et vous savez, il y a des imbéciles même chez les rabbins. Hein. C'est pas parce que tu es un rabbin que tu es forcément quelqu'un de bien. Hein. Et ça, il faut savoir. Parce que dire que Herzl, son nom soit effacé et il ira en enfer, il n'y a qu'un triple idiot qui peut dire une chose pareille, même s'il est déguisé en rabbin. Et il y a des faux curés partout, il y a des faux prêtres partout, il y a des faux imams partout, il y a des faux rabbins partout. Arrêtons, je n'arrête pas de dire, arrêtons de croire que l'homme est parfait. L'homme n'est pas parfait. Il y a des gens qui ne sont pas bien partout. Tu peux être un rabbin, ne pas être bien. Tu peux être un curé, ne pas être bien. Tu peux être un prêtre, ne pas être bien. Tu peux être un pasteur, ne pas être bien. Tu peux être un homme normal, être une crapule. L'un des pires ennemis de David, qui s'appelait Doeg, nos maîtres disent que c'était un des plus grands rabbins de la génération. Bon, j'aime pas le mot rabbin, c'est trop français. Je préfère dire rave. C'est plus hébraïque. Doeg, le pire ennemi de David, à l'époque du roi Shaoul, qui poursuivait constamment, était l'un des plus grands, bon, j'ose pas dire le mot sage, parce que c'était une crapule, mais sur le plan connaissance, c'était un des plus grands de sa génération. Et pourtant, c'était une sale crapule. Donc, il faut qu'on arrête une fois pour tout de vénérer les hommes de Dieu, comme je ne cesse de le dire. Le jour où on arrêtera le culte de l'homme, on aura fait des milliards de kilomètres pour se rapprocher de la délivrance. Tous les peuples, tous les hommes et toutes les femmes sont rongés par ce que j'appelle moi le culte de l'homme. L'homme reste un homme. Et on n'a pas le droit de vénérer un homme. Et on doit savoir que même si c'est un rabbin, même si c'est un prêtre, même si c'est ci, même si c'est ça, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Donc pour revenir à ce que vous dites, tout celui qui dit du mal de Theodor Herzl à mes yeux, n'est qu'un voyou, même si c'est un rabbin. On continue. Le cours de la semaine dernière, on ne peut pas le visionner sur le site. Si, je l'ai mis sur le site pour le groupe RAI uniquement. Ceux qui sont dans le groupe RAI, vous avez pu voir le cours de la semaine dernière? Vous avez pu le voir? Peut-être que vous ne l'avez pas recherché parce que vous l'avez vu en direct. Mais on continue. Les âmes des Bnei Adam reviennent-elles plusieurs fois aussi? Absolument. Tout Ben Adam revient autant de fois qu'il faut pour accomplir sa mission. Il n'y a aucune différence entre un Ben Adam juif et un Ben Adam non juif par rapport aux réincarnations. Alors, encore une lecture. Véronique, par rapport à votre message, quel est aussi l'enjeu de la Parnassa qui n'arrive pas forcément, même quand on fait au mieux, avec une démarche d'excellence en offrant ce qu'on en fait à Hachem et à l'évolution du monde vers le meilleur? Bon, je résume. Il y a des gens qui ont des problèmes sur le plan matériel et pourtant ce sont des gens qui essayent de faire du bien et de bonnes choses et ils ne s'en sortent pas sur le plan matériel. Mes amis, il faut savoir qu'on n'est pas dans ce monde pour s'amuser. Nos maîtres disent en plaisantant, parce que c'est pratiquement impossible à trouver, que supposons un homme, pendant 30 jours, disent nos maîtres, n'ait pas le moindre souci, n'ait pas la moindre difficulté, nos maîtres disent c'est sûr qu'il finit en enfer. Mais attends, s'il n'a pas la moindre épreuve, pas la moindre difficulté, donc c'est un homme bien, nos maîtres disent exactement le contraire. On est sur terre pour être éprouvé, pour être ballotté. Et c'est pour ça qu'on est sur terre. Pourquoi? Parce que le maître du monde veut tester notre force, veut tester notre émouna, notre foi, veut tester notre conviction, veut tester notre volonté. Et un homme qui n'est pas éprouvé, un homme qui ne traverse pas des épreuves, comment il va pouvoir dévoiler sa conviction, son caractère, sa volonté, sa force, son esprit guerrier, sa détermination, son optimisme, sa volonté de gagner? Comment qu'il va le dévoiler s'il n'est pas face à des difficultés? Donc un homme authentique est forcément face à des difficultés, et pas seulement une fois dans sa vie, des dizaines de fois dans sa vie. Parfois, c'est qu'on ne réussit pas sur le plan professionnel, des fois, malheureusement, une maladie, des fois, d'autres malheurs qui peuvent arriver. Mais ces difficultés sont la preuve que le maître du monde veut nous construire. Parce que quelqu'un qui n'a pas de difficultés dans sa vie, c'est la preuve que le maître du monde l'a abandonné. Parce qu'il ne vaut rien. C'est pratiquement impossible à trouver, mais supposons sur le plan théorique. Donc chacun d'entre nous qui a des manques et des difficultés, c'est la preuve qu'il est éprouvé. Et s'il tient bon, s'il a cette volonté de ne pas s'écrouler, finalement, tout se transformera en bien. Voilà, mes amis, il y a effectivement beaucoup de questions écrites. Ça m'est un petit peu difficile de tout lire parce qu'il est déjà très tard. Avraham, pourtant la Shoah aurait pu être évitée si les gens avaient écouté les alertes, Jabotinsky, Allemagne, les enfants n'étaient pas responsables des mauvaises actions des juifs de l'époque. Évidemment, je commence par la fin. Vous posez évidemment vous dites quelque chose d'absolument juste. C'est pour ça que j'ai précisé que ma réponse est de loin toute la réponse. Évidemment, en quoi les enfants qui ont été exterminés en Allemagne étaient responsables du fait que leur père crachait sur la Torah? Évidemment que ce n'était pas responsable. Évidemment que non. Donc ma réponse n'est que une infime partie de toutes les réponses dont la majorité sont complètement au-dessus de notre compréhension. Mais ce que j'ai dit est juste malgré tout. Simplement, c'est loin d'être toute la réponse. Évidemment, pourquoi les Juifs qui étaient en Ukraine ou en Pologne ont souffert à cause des Juifs allemands qui étaient assimilés? Ça n'a pas de sens. Donc c'est pour ça que je précise. Un jour, le rabbi de Lubavitch a dit la chose suivante. Et d'ailleurs, c'est aussi une certaine manière de limiter ce que j'ai dit. Le rabbi a dit après la Shoah, lui-même était en France pendant la Shoah, il est arrivé à s'enfuir, il était recherché par la Gestapo, il était à Paris, il s'est enfui à Nice, de Nice il est passé au Portugal, du Portugal il a pris le dernier bateau qui a quitté la France et qui est arrivé aux États-Unis. Mais il était recherché par la Gestapo, etc. Il a failli mourir pendant la Shoah, le rabbi de Lubavitch. parce qu'il faisait ses études à la Sorbonne à l'époque, au moment où la guerre a explosé. Et donc, lui-même, après la Shoah, a dit que tout celui qui essaye de donner une explication pour expliquer la Shoah est une véritable crapule. Pourquoi ? Parce que personne, absolument personne, ne peut donner la réponse exacte à la Shoah. C'est pour ça que, et il a rajouté, même si Dieu avait confié au Satan en personne de faire la Shoah, le Satan aurait refusé. Bon, c'est une manière de parler, mais c'est pour nous faire comprendre que même le Satan lui-même n'aurait pas pu faire la Shoah. Tellement ça dépasse l'entendement. Donc, ma réponse est simplement une approche, l'ombre de la goutte de l'océan de ce qui s'est passé. Elle est juste, mon approche, mais c'est évident qu'elle ne peut pas tenir compte de tout ce qui s'est passé. Voilà, mes amis, je voudrais que l'on arrête maintenant. J'ai pas pu répondre à toutes les questions écrites parce qu'il est tard, je dois m'arrêter. Je voulais vous remercier vraiment à tous et à toutes pour votre présence. On est à chaque fois pas mal. On est monté presque à 50, maintenant on est 44. Et donc, on se retrouvera, vous recevrez donc une invitation pour après les fêtes de Soukhot. Comme je vous l'ai dit, on est censé, si tout va bien, on est censé se retrouver le 11 octobre. Le 11 octobre. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très 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 bonne nouvelle année. Merci d'être là, merci d'être présent. Et je vous dis très sincèrement que l'un des meilleurs moments que j'ai dans la semaine, c'est ce groupe rail que j'ai avec vous. Je vous le dis très sincèrement, le fait de vous voir, même si vous ne posez pas toujours des questions, le fait de vous voir, le fait de voir tous ces beaux visages et tous ces... Vraiment, vous me donnez beaucoup de force, beaucoup de joie. Et je souhaite qu'on continue encore pendant des millénaires ensemble, parce que ce n'est pas que dans ce monde, c'est dans l'autre aussi, hein. Donc on est parti pour quelques éternités ensemble, si Dieu veut. Voilà. À tous et à toutes, que des bonnes choses, et que Hachem nous envoie toutes ses bénédictions pour la nouvelle année, et on se retrouve avec beaucoup de force. À très très bientôt. Merci, merci, merci. Bien, merci, merci, merci. Merci, 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 merci.